asseoir. Et nous apprêter à écouter la parole de Dieu. Il est saint, il est assis sur son trône. Et il étend son règne sur tout, sur l'univers physique, sur l'univers invisible. Celui qui est assis sur le trône est celui qui règne et vit au siècle des siècles. Voilà pourquoi nous devrions nous considérer comme étant des hommes et des femmes privilégiés. Après lui avoir chanté tous ces cantiques merveilleux, après lui avoir exprimé nos sentiments, quels qu'ils soient, nous aimerions maintenant nous taire et lui tendre notre oreille afin qu'il nous parle. Nous aimerions nous taire et laisser simplement l'Esprit de Dieu travailler en nous au travers de sa parole. Nous aimerions nous focaliser sur lui et lui donner cette occasion plus que merveilleuse de nous modeler, de nous façonner entre ses mains de divin potier pour nous faire ressembler à lui seul. Seigneur, je voudrais te remercier, car malgré ta sainteté, malgré que tu habites, Seigneur, un trône élevé au-dessus de tout, bien que tu sois revêtu d'une lumière inaccessible, il t'a plu cependant, dans ton amour pour chacun de nous, de venir sur cette terre dans un corps semblable au nôtre. Seigneur, de vivre une vie comme tout homme, sauf le péché, et de donner ta vie enfin sur cette croix à Golgotha pour nous. Nous te remercions, ô Dieu, pour l'œuvre de la croix, car si nous sommes là ce matin, si nous pouvons, Seigneur, en cet instant nous tourner vers toi, élever nos âmes, nos esprits jusqu'à toi, c'est parce qu'un jour, ton corps a été brisé, ton corps a été meurtri, et au travers de ce corps, nous avons désormais accès auprès du trône de la grâce. Merci pour cet accès. Nous voulons vraiment que ta parole puisse, Seigneur, trouver un écho favorable et positif dans nos vies. Que rien ne puisse faire obstacle, ne puisse faire écran à ta parole. Qu'elle soit la bienvenue, afin qu'elle puisse fertiliser notre cœur. Et le rendre, Seigneur, ô Dieu, apte à pouvoir développer ton caractère et ainsi te ressembler en tout. Bénis ta parole, sanctifie-la dans nos âmes, dans nos esprits, mais bénis aussi ton serviteur, Seigneur, en lui accordant la force, en lui donnant, Seigneur, la capacité, en lui donnant l'onction dont il a besoin pour proclamer, Seigneur, cette parole qui est pure, cette parole qui est sainte, cette parole qui est au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Dépose-la dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, ce matin, j'ai intitulé mon message « Heure de ténèbres, deux points, Pierre ou Jacob ?» Point d'interrogation. Heure de ténèbres. Deux points. Pierre ou Jacob? Et nous allons le voir. Et ma prière ce matin, c'est que chacun de nous, au travers de la vie de Pierre, dans un moment bien précis, au travers de Jacob, à un moment bien particulier de sa vie, que chacun puisse comprendre et s'inspirer de telle ou telle autre attitude, afin de pouvoir expérimenter les choses auxquelles le Seigneur nous destine. Nous allons lire dans Luc chapitre 22, Luc 22, à partir du verset 39 jusqu'au verset 53. Après être sorti, il est donc question du Seigneur, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Puis s'écarta d'eux d'environ un jeu de pierre, se mit à genoux et pria, en disant, « Père, si tu veux, Éloigne de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse ou à l'agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva, hélas, endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, priez, afin de ne pas tomber en tentation. » Comme il parlait encore, voici qu'une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un de 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux, les autres évangélistes préciseront qu'il s'agit de Pierre, l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Tenez-vous-en là !» Puis il toucha l'oreille de cet homme, Malchus, et le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais, c'est ici votre heure et le pouvoir de ténèbres. » Gloire à Dieu. Je voudrais inviter chacun de nous à aller rejoindre le Seigneur à un moment particulier de sa vie et de son ministère. Allez ensemble dans cet endroit où se jouait le sort de la race humaine. Tout ce qui arrivera plus tard, à savoir la crucifixion, la mise à mort, l'inhumation, tout cela ne sera que, mes amis, la confirmation de ce triomphe qui avait déjà commencé à Gethsemane. Alléluia. Gethsemane. Ou littéralement, Gethsemane, qui veut dire en hébreu, pressoir à huile, c'était une oliveraie sur au mont des Oliviers. Et sur un des flancs du mont des Oliviers, il y avait donc ce jardin. On trouvait des oliviers. Et ce jardin était donc pourvu d'un pressoir à huile. J'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, de visiter ce site, dont le mont des Oliviers. J'étais au jardin de Gethsemane. Et puis à Nazareth, j'avais eu l'occasion de visiter la reconstitution d'un pressoir à huile. Comment à l'époque on prenait les olives et puis on les broyait, on les pressait pour pouvoir produire du fruit, et plutôt de l'huile. C'est donc dans ce jardin-là que tout va se jouer. Ce n'était pas la première fois que le Seigneur y aille. Il en avait l'habitude. Nous le trouvons plus d'une fois dans ce lieu-là pour vaquer à la prière, pour rechercher la communion avec le Père. D'ailleurs, l'évangéliste Luc signale au chapitre 21, verset 37, que le Seigneur, pendant le jour, enseignait dans le temple et pendant la nuit, il allait passer la nuit au mont des Oliviers, donc dans ces lieux-là. Mes amis, ce qui s'est passé dans ce lieu-là, comme je viens de le souligner, a marqué l'histoire de l'humanité. Et même l'éternité ne suffira pas pour nous faire comprendre, nous faire prendre conscience du résultat plus qu'extraordinaire de ce que Jésus avait accompli cette nuit-là dans ce jardin. Il est vrai qu'aujourd'hui, alors que le monde se déchristianise à une vitesse infernale, alors que les gens abandonnent de plus en plus Dieu pour se tourner vers toutes sortes de pratiques religieuses, dans un monde comme celui-ci où Jésus a été déclaré persona non grata, eh bien les gens parle plus de certains sites touristiques que de Gethsémané. Parle plus de la Tour Eiffel à Paris. On parle du Taj Mahal. On parle de tant de lieux, certes merveilleux, certes beaux à voir, mais qui encore parle de Gethsémané? Qui encore se souvient, mes amis, dans la mémoire collective de ce qui s'est passé cette nuit-là? Aujourd'hui, on parle plus des sites religieux, des lieux de pèlerinage, comme Kamba, dans le Bas-Congo, comme Lourdes, au Portugal, comme le Vatican, comme la Mecque, et tant d'autres lieux, Bénarès ou autres. On parle plus de ces lieux-là que de Gethsémané. Et pourtant, mes amis, si nous sommes là, vous et moi, si aujourd'hui, il y a désormais une échelle qui relie le ciel à la terre, c'est parce qu'il y a eu l'expérience à Gethsémané. C'est parce qu'un jour, le Fils de l'homme, dans ce jardin où il avait l'habitude d'aller chercher la tranquillité, la quiétude, la communion avec son Père, dans ce lieu-là, est-ce qu'il y a moyen de me déplacer un peu, ça, s'il vous plaît? Dans ce lieu-là, eh bien, il avait combattu, il avait été confronté aux puissances des ténèbres. Et il avait remporté la victoire. Alléluia. Gethsémané. Cette nuit-là, c'était une nuit comme toute autre nuit. Mais cependant, elle était particulière. Parce que cette nuit-là, tout l'enfer était au rendez-vous. Tous les caciques de ténèbres étaient présents. Mes amis, le monde des ténèbres était là. Car le moment s'approchait où Jésus allait accomplir la raison ultime de sa venue sur cette terre, à savoir boire la coupe du péché de l'humanité tout entière, subir la colère de Dieu à cause du péché, et ce pour l'homme. Avant, Gethsémané était un lieu de paix, pour lui un lieu de tranquillité. Il y allait la journée, il y allait le soir, comme Luc le souligne, pour y passer du temps avec le Père. Mais cette fois-ci, et dans cette nuit particulière, Gethsémané devient un lieu de combat. Gethsémané devient un lieu de confrontation avec la puissance des ténèbres. Un lieu de douleur et de souffrance. Un lieu de trahison et d'angoisse. Un lieu d'agonie. Un lieu de rejet et aussi un lieu d'arrestation. Avant, il avait connu des moments plus que merveilleux dans ces lieux-là. Il avait connu des heures extraordinaires. Il avait connu des moments merveilleux. Mais cette fois-ci, eh bien, c'est dans une confrontation qu'il va vivre cette heure, cette nuit-là particulière. C'est dans une confrontation avec l'ennemi de nos âmes, avec celui qui avait entraîné l'humanité dans sa perdition, celui qui maintenait l'homme loin de son Créateur, celui qui avilissait l'homme, l'entraînait dans une vie de bestialité, dans une vie de colère vis-à-vis de son Créateur. Mais chose extraordinaire et bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il a remporté cette heure-là. Gloire à Dieu. Cette heure que Jésus passe, cette heure que Jésus connaît, mes amis, est une heure particulière dans les annales de l'histoire humaine. Une heure terrible. Une heure qui va durer jusqu'à sa crucifixion, jusqu'à sa mort sur ce bois infâme de la croix. Une heure donc de souffrance. Une heure terrible. Une heure d'agonie, de trahison, tout cela pour libérer l'humanité du joug démoniaque et satanique. Tout cela pour donner l'occasion à l'homme, enfin, de revenir à son Créateur. Ne dira-t-il pas plus tard, alors qu'il était cloué sur ce bois maudit, ne dira-t-il pas, s'adressant à son Père, « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la toute première fois, mes amis, il y a eu rupture entre le Père et le Fils. Et cela va entraîner un séisme terrible, dont les conséquences se font encore sentir jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi a-t-il poussé ce cri? Eh bien, parce qu'à cet instant précis, Jésus a été fait péché. Il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Il a tout pris, mes amis. C'est pourquoi il a donné à ses disciples cet ordre d'aller dans le monde entier et de prêcher cette bonne nouvelle. Que désormais l'homme n'a plus rien à faire, si ce n'est que recevoir le salut que Dieu offre gratuitement. Car il n'y a que lui et lui seul qui a vaincu. Il a écrasé la puissance des ténèbres. Il a traversé cette heure terrible d'angoisse, d'agonie, de trahison. Il l'a traversé avec triomphe. Mes amis, que nous le voulions ou pas, tant que nous serons sur cette terre, tant que nous serons dans ce vase d'argile, dans ces tentes éphémères que sont nos corps, tant que nous serons sur cette terre, eh bien, nous sommes appelés à l'instar de notre Maître, à l'instar de notre Seigneur, nous sommes appelés à connaître et à passer par l'heure de ténèbres, à être confrontés d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, à la puissance, au pouvoir de ténèbres. Et ceci est une réalité. Et je suis convaincu que ce matin, il y en a qui se battent, il y en a qui sont comme dans un trou noir, mon frère et ma sœur. Tu es en train de passer par cette heure de ténèbres. Et le but de ma prédication ce matin, c'est que tu puisses voir, que tu puisses voir par rapport à Pierre ou par rapport à Jacob, où tu en es exactement. Car cela est important. L'heure des ténèbres est un temps d'épreuve. L'heure des ténèbres est un temps d'adversité, un temps de souffrance, un temps de rejet, un temps de solitude. Cette solitude, il l'a connue, mes amis. Lui qui a été toujours en communion avec le Père. Mais là, à Gethsémani, dans cette heure des ténèbres, il connaît la solitude. C'est le temps où tout est noir autour de nous, où nous avons l'impression d'être seuls au monde, seuls sur cette terre, où nous avons l'impression que personne ne s'intéresse à nous. Alors que faire lorsqu'il nous arrive de passer par cette heure? Que faire lorsque nous passons par ce moment des difficultés, ce moment des ténèbres, ce moment où nous avons l'impression que Dieu est indifférent à notre problème? Nous avons l'impression que, eh bien, quelque chose s'est passé qui a complètement éclipsé Dieu de notre vie. Lui qui a toujours été le soleil de notre vie, qui nous a toujours éclairés. Et voilà, tout d'un coup, tout est noir, tout est sombre. Que faire en pareille heure? Que faire lorsqu'on est confronté à cette heure terrible, à cette heure d'angoisse et d'incertitude? Que faire? Quoi faire, mes amis, pour triompher de cette heure? Car nous n'avons pas de choix. Il n'y a que deux choses qui se passent lorsque nous passons par ce temps d'adversité, ce temps de souffrance, ce temps de difficulté. Soit nous triomphons, nous gagnons la victoire, nous en sortons, eh bien, avec triomphe, édifiés. Et Dieu se glorifie, ou alors c'est le contraire qui se passe. Voyons comment le Seigneur a triomphé de cette heure. Voyons comment lui, quelle a été son attitude. Il savait ce qui allait arriver. Il savait ce qui allait advenir, mes amis. Il ne marchait pas comme nous, voyez-vous, selon nos instincts, selon les circonstances, pas du tout. Il savait. Et c'est pour cette heure-là qu'il était venu sur cette terre. Gloire au Seigneur. Voyons comment il a affronté l'heure des ténèbres. Sans plus tarder, dans ce récit, eh bien, nous voyons qu'il y a un verbe, du moins dans les 5 premiers versets, un verbe qui revient tout le temps, c'est le verbe prier. dans cette heure des ténèbres, dans cette heure de souffrance, dans cette heure où il va boire la coupe de la colère de Dieu, dans cette heure où tout est noir, où il a l'impression d'être seul au monde, dans cette heure-là, eh bien le Seigneur va avoir une seule attitude. Plus qu'une attitude, il va traverser cette heure dans un esprit, celui de la prière. Alléluia. Il va affronter cette heure par la prière et dans la prière. Il a tellement prié, il a tellement combattu, au point où la Bible nous dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Vous vous rendez compte, mes amis? La pression des ténèbres sur lui, la pression morale, spirituelle, physique. Lui qui était en communion avec le Père, rappelez-vous au jour de son baptême, alors qu'il priait et qu'il était dans le Jourdain, la Bible nous dit le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et le Père en parlait. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Alléluia. Sur la montagne de la Transfiguration, il était en prière. Mes amis, là aussi le ciel a répondu oui ou non. Mais ici, on a l'impression que le ciel est fermé. C'est juste un ange qui vient pour le fortifier. Voyez-vous, heure terrible. Heure difficile à affronter, mais cependant le Maître va l'affronter et va même la vaincre. Gloire à Dieu. Il savait ce qui allait advenir. Et pour préparer son peuple, c'est là que je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention, pour préparer ses disciples à pouvoir affronter cette heure des ténèbres, à pouvoir être préparés à entrer dans cette heure des ténèbres, à affronter l'adversité, le Seigneur leur demanda de prier. De prier. Mais hélas, ils furent gagnés par la tristesse, par le sommeil. Le Seigneur est revenu, il les a trouvés endormis, il les a réveillés. Il leur a dit, priez afin de ne pas entrer. D'autres versions disent de ne pas tomber. J'aime beaucoup l'image du verbe entrer. Vous voyez, c'est l'image où on ouvre, n'est-ce pas? On ouvre la porte d'un lieu et où vous entrez. Donc pour ne pas entrer dans cette heure des ténèbres et se laisser écraser, broyer par le pouvoir de ténèbres, le Seigneur leur a demandé de prier. Mes amis, lorsque la Bible nous demande de prier sans cesse, eh bien, elle sait de quoi elle parle. Amen. Il n'y avait pas d'autre moyen d'être préparé à affronter cette heure des ténèbres que de l'affronter par la prière et dans la prière. Amen. Dans la prière et par la prière. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu tenir. Et résultat, la conséquence de tout ça, lorsque cette heure est arrivée, le Seigneur était préparé. Alléluia. Lorsque cette heure est arrivée, eh bien, ses disciples ont réagi de manière charnelle. Lorsque les gens viennent pour arrêter le Seigneur, eh bien, ils posent la question, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Ils réagissent dans la chair, mes amis. Ils font appel à des choses du monde pour essayer d'affronter l'heure des ténèbres. Mais le Seigneur va leur dire non. Pierre ne va pas attendre. Encore lui, toujours lui. Très fougueux. Très réactif, lui. Il n'attend pas le moment. Pierre sort son épée. Il se dirige vers un homme, Malchus, qui était serviteur du souverain sacrificateur. Quel drame pour lui, hein? Quand on voit l'autorité, le pouvoir que ce genre avait dans la société israélite, il s'attaque à ce serviteur. Il lui arrache l'oreille droite, mes amis. Et quand le Seigneur a vu cela, il a arrêté Pierre. Il lui a demandé de remettre son épée. Il s'est penché. Il a ramassé l'oreille. Il a accompli un miracle. Et l'homme a retrouvé son oreille droite. Alléluia. Ils ont réagi charnellement. Pourquoi? Parce que dans cette heure des ténèbres, il eût fallu qu'ils passent du temps avec le Seigneur dans le combat, par la prière et dans la prière. Mes amis, il est vrai que d'une manière ou d'une autre, nous connaîtrons des heures difficiles, ce que j'appelle l'heure des ténèbres, des moments d'adversité, des moments où nous nous poserons toutes sortes de questions, des moments où nous nous dirons, mais qu'est-ce que je deviendrai demain après-demain? Mais sachons cependant que cette heure des ténèbres, si Dieu la permet dans notre vie, c'est pour que nous puissions expérimenter sa gloire. Amen. Alléluia. C'est pour que nous puissions, mes amis, voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Pour que nous puissions expérimenter sa parole qui déclare qu'il est tout puissant et qu'il a solution à tout. Nous entendons, j'entends souvent cette prière, moi-même je l'ai formulée hein, plus d'une fois. Seigneur, je veux voir ta gloire. Qui a déjà fait cette prière? Qu'il soit honnête pour lever sa main. Eh bien, voyez beaucoup. Seigneur, je veux voir ta gloire, en effet. Mais quand nous disons, Seigneur, je veux voir ta gloire, qu'est-ce que nous lui demandons juste? Voir la gloire de Dieu dans nos vies, c'est voir le Seigneur à l'œuvre dans nos vies, oui ou non? C'est voir le Seigneur nous donner toutes les ressources dont nous avons besoin pour trouver des solutions. C'est voir le Seigneur agir. Mais comment voulez-vous qu'il agisse si vous n'êtes pas confronté à des épreuves? Comment voulez-vous, mes amis, voir sa gloire si vous n'avez pas affaire à des montagnes, des difficultés, des problèmes? En d'autres mots, demander à Dieu de te faire voir sa gloire, c'est lui demander implicitement qu'il occasionne des problèmes. Voilà. Heureusement qu'il use de beaucoup de patience envers nous. Hein. Je veux voir ta gloire. On jeûne, je veux voir ta gloire. Et puis voilà, le Seigneur entend la prière, d'accord. Mais tu ne vas pas voir la gloire lorsque, avec ce que tu as, tu peux tout résoudre. Tu verrais ta propre gloire. Oui ou non? Alors il faut qu'il y ait une privation. Il faut que tes faiblesses se manifestent dans un contexte précis pour que les ressources d'en haut te soient données. Gloire au Seigneur. Pendant l'heure des ténèbres, mes amis, tout est obscur autour de nous. On ne sait quoi faire. On ne sait vers qui se tourner. On ne sait pas comment prier. Voyez? Et croyez-moi, c'est là que Dieu manifeste sa gloire. Lorsque nos ressources tarissent, lorsque nous n'avons plus de flèches dans notre carquois, c'est alors que le glaive descend d'en haut. Alléluia. Il faut que nos ressources s'assèchent pour que celles de Dieu entrent en jeu. Rappelez-vous de l'apôtre Paul. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, il explique un peu comment il a connu des moments difficiles dans sa vie, des moments de faiblesse, des moments de privation, des moments de rejet, des difficultés de tout genre. Et au chapitre 12 de 2 Corinthiens, nous voyons l'apôtre Paul qui dit à ses lecteurs que pour qu'ils ne soient pas enflés d'orgueil, à cause de toutes les expériences qu'il avait faites avec le Seigneur, à cause de la révélation de l'excellence, de la connaissance et de la révélation de Dieu, pour que l'orgueil ne le guette pas, il dit qu'il lui avait été mis une écharde, n'est-ce pas? Une écharde dans sa chair, dans son corps. Vous connaissez les chardes, c'est ces petits fragments de corps pointu. Ça peut être un morceau de bois enterré sous la peau. Hein. Je ne sais pas comment on appelle ça en lingala. Vous êtes en train de travailler du bois et tout d'un coup, il y a un morceau qui rentre et ça fait très mal. Hein. Si vous n'enlevez pas ça, eh bien, quelquefois, ça entraîne l'infection. C'est ça une charde. Vous voyez? Donc, il dit qu'on lui avait mis une charde. L'ange de Satan qui souffletait, etc. Je sais qu'on a beaucoup spéculé sur les chardes de Paul. Il y a des livres entiers qui sont écrits, il y a toutes sortes d'hypothèses, même des hypothèses bizarroïdes, invraisemblables. Mais toujours est-il que C'était une affliction physique qui l'empêchait, qui était la base de beaucoup de souffrances. Et par rapport à ça, il dit trois fois, j'ai supplié le Seigneur. Je lui ai demandé avec insistance et humilité. C'est ça la supplication, non? Et de manière pressante, nous avons vu ça. Pour qu'il puisse éloigner cette écharde de moi. Pour qu'il puisse enlever. Mais écoutez ce qu'il dit à propos de la réponse que le Seigneur lui avait donnée. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la gloire à Dieu. Il faut que nos faiblesses se manifestent. Et l'heure des ténèbres, mes amis, est là. Pour faire paraître nos véritables faiblesses, nos incapacités. C'est-à-dire, nous arrivons dans une impasse ou sur une voie où nous ne savons rien faire. Avec notre connaissance, avec nos moyens matériels, nos moyens financiers, nous sommes incapables de doter cette montagne. Voyez-vous? Et c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Sa puissance s'accomplit dans la fablesse. Et il ajoute, et j'aime beaucoup ça, voyez-vous? C'est pourquoi je me plais. Lorsque je suis fort, non. Je me plais dans les faiblesses. Lorsque je me retrouve dans des situations où mes faiblesses se manifestent, alors je suis content. Pourquoi? Parce que là, je m'attends à une intervention glorieuse de mon Seigneur. Il dit, je me réjouis, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Vous vous rendez compte? Il est outragé. Il ne peut pas réagir parce qu'il n'a pas suffisamment de force. Je me plais dans les privations. Vous vous rendez compte? Car lorsqu'on est privé de tout, alors Dieu devient notre provision. Voyez-vous, mes amis, l'heure des ténèbres n'arrive pas au hasard. Voyez. Je me plais dans les privations. Je me plais dans mes faiblesses. Je me plais lorsque je me sens faible. Lorsque je n'ai pas la force de pouvoir bouger. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, cet obstacle qui est devant moi. La Bible, Paul dit, je me plais. Car lorsque je n'arrive pas à bouger cette pierre qui obstrue mon chemin, lorsque je n'arrive pas à ouvrir cette porte, parce qu'elle est bien verrouillée, parce que celui qui est derrière cette porte, eh bien, il est plus fort que moi, c'est alors que je me tourne vers le ciel. Et je m'attends à ce que le fort d'Israël, le vaillant guerrier, entre dans le combat. Heure de ténèbres, mes amis, c'est un moment, c'est vrai, de douleur, de souffrance, un moment difficile, mais l'heure des ténèbres crée, mes amis, un cadre pour que la gloire de Dieu se manifeste. Gloire au Seigneur. Amen. Le même Paul avec Silas à Philippe, ils se sont retrouvés en prison. Voyez-vous, mes amis, leurs faiblesses se sont manifestées. Ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir se payer le service d'un avocat qui puisse le défendre, oui ou non. Ils n'avaient personne, ils ne connaissaient aucune autorité dans cette ville de Philippe, à Macédoine. Personne, mes amis. Leurs faiblesses se sont manifestées. Ils étaient privés de leur liberté. Ils étaient à la merci de leurs adversaires. Et c'est là que la puissance de Dieu, mes amis, va être déversée sur eux. Ils se sont mis simplement à prier et à louer le Seigneur. Mes amis, dans l'heure des ténèbres, nous n'avons pas d'autre attitude à voir que la prière, et encore la prière, et toujours la prière. C'est plus qu'un acte religieux, mes amis. Là, nous voyons la prière comme un combat où nous nous battons, où nous sommes en proie à toutes sortes d'angoisses. Ne croyez pas ceux qui vous disent, un chrétien, ça n'angoisse jamais. Un chrétien, il ne peut pas être inquiété par quoi que ce soit. Non. Ou alors c'est un autre évangile qu'il prêche. L'heure des ténèbres est là. Alléluia. La conséquence, et c'est là que Pierre et Jacob entrent dans la danse. La conséquence de n'avoir pas veillé dans la prière, de n'être pas entré dans l'heure des ténèbres, dans un esprit de prière, la conséquence pour Pierre, et la première, c'est que Pierre va réagir selon la chair. Il va recourir à son épée pour pouvoir trouver une solution à cette situation-là. C'est ce qui nous arrive souvent lorsque nous sommes dans un besoin quelconque. Au lieu de prier, au lieu de rechercher la face de Dieu, au lieu de prendre du temps dans le jeûne et dans la prière, au lieu de nous préparer à traverser cette heure-là dans la prière et par la prière, ce qui nous arrive souvent, eh bien, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Nous essayons de recourir à des moyens du monde pour trouver des solutions. Mais souvent, ce sont des solutions qui ne sont pas idoines, des solutions qui ne sont pas appropriées, qui nous réjouissent pendant un temps et par après, nous pleurons. Oui. Il agit selon la chair en arrachant l'oreille de Malchus. Voyez-vous? Ça, c'est la première conséquence. Si nous ne prions pas, lorsque, mes amis, des obstacles sont là, les problèmes sont là, les difficultés sont là, si nous passons tout notre temps à nous apitoyer sur nous-mêmes, à essayer de charger tout le monde et de responsabiliser tout le monde, eh bien, nous risquons, mes amis, à un certain moment, puisque, étant dans le besoin, nous risquons d'aller chercher des solutions, même dans les ténèbres, retourner en Égypte. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Il a réagi charnellement. La deuxième conséquence, c'est que non seulement il a réagi, mais dans cette heure de ténèbres, il se retrouvait en train de suivre le Seigneur de loin. C'est ce que le verset 54 nous dit, du même chapitre. Après s'être emparé de Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ah! Donc, lui qui était toujours proche, oui ou non? Lui qui avait dit, Seigneur, je te suivrai partout, même s'il faut aller te suivre jusque dans la mort, jusqu'en prison, Seigneur, je suis prêt. Ce qui n'a pas été le cas. Un beau discours, très belle prière. Seigneur, je te suivrai. Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Tu peux compter sur moi. Mais le Seigneur savait. Voyez-vous, c'est ce qui arrive. Si vous ne priez pas, le vent qui souffle de plus en plus dans l'heure des ténèbres va vous éloigner. Va vous éloigner du Seigneur. Oui. Et vous allez vous retrouver de plus en plus loin du Seigneur. Et plus vous vous éloignez du Seigneur, plus vous vous rapprochez de qui? De l'autre. Je ne veux pas citer le nom. C'est ça. Et l'autre a toujours aussi des solutions de réchange. Mais attention, c'est un maître dans l'art de nous vendre l'illusion. Oui. Il te donne l'impression que c'est ça la solution, tu te réjouis. Et quelquefois tu dis, mais alléluia, amen. Mais lui t'attend. Il est derrière. Il t'attend pour mieux t'achever. Voyez-vous? Troisième conséquence, cet éloignement l'entraîne jusqu'à un feu allumé par les gens qui étaient venus arrêter son maître. Et comment peut-on qualifier une telle attitude? Trahison. L'éloignement va entraîner la trahison. Il faisait nuit et il faisait froid. Il était tout à fait normal que Pierre cherche un lieu où il pouvait se réchauffer. Et il se trouve qu'il y avait là un brasier, qu'il y avait là un feu allumé par les serviteurs du souverain sacrificateur, par les huissiers, les mêmes gens, mes amis, qui avaient porté leurs mains contre son Seigneur, les mêmes gens qui avaient humilié son Seigneur, lui se retrouve autour de ce feu avec eux. À défaut de trouver la solution au ciel, il va essayer de trouver la solution ailleurs. Voyez-vous? Mais mes amis, on finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Hein? Le voilà autour de ce feu, autour de ce brasier allumé par ce genre-là. Il y a la lumière, il y a la chaleur. Mais là, il y a le feu, il y a aussi là un peu de lumière, n'est-ce pas? Pierre oublie son problème. Il pense que Il a trouvé la solution. Il avait froid, il faisait nuit, donc il avait besoin de lumière, il avait besoin de feu. Et voilà le premier feu qui se présente. Ah ben, il fonce. Il est autour du feu. Le feu l'a réchauffé, oui ou non? Pendant un temps, le froid est parti. Il est content. Il tire un peu sa barbe, j'espère qu'il y en avait une. Il n'y avait pas de rasoir, je ne sais pas comment il se rasait. Il tire un peu sur sa barbe, se frotte le mec. Formidable. Vous voyez? Mais le feu qui le réchauffe, c'est aussi le feu qui va le mettre à nu aux yeux de ceux qui étaient là. À un moment, une servante regarde, ah, mais cette tête-là, elle m'est familière. Mais monsieur, mais tu étais aussi avec cet aventurier qu'on est en train de juger là-bas, non? Elle dit, mais madame, je ne sais de quoi tu parles. Je ne le... Ah, ben bon. La dame se gratte les cheveux. Elle dit, c'est peut-être que je me suis trompé. Mais attention. L'ennemi, s'il veut t'avoir, il ira avec toi jusqu'au bout. Un autre homme. Il entend Pierre réagir. Et il dit, mais monsieur, moi je suis convaincu de t'avoir vu avec cet homme. D'ailleurs, tu étais tout le temps avec lui. Il dit, mais monsieur, excuse-moi, mais moi je ne le connais pas. Ni d'hier, ni d'aujourd'hui. Deuxième fois, hein. Autour de le feu de la compromission, le feu de la débrouillardise qui va lui attirer les problèmes. Eh bien, troisième, il dit, mais monsieur, il ne faut quand même pas se foutre de nous. Hein. Et là, quand tu parles là, ton accent t'accuse. Vous savez, même ici, vous pouvez savoir, quand quelqu'un parle le lingala, vous savez d'où il vient. Nous autres, là, nous nous battons. Quelquefois, j'ai vu une fois mon épouse rire. Eh bien, je venais de demander, sans que je m'en rende compte, à quelqu'un, Pesanga ça. La montre. Alors, le gars me regarde, Pesanga ça. Je ne suis d'ailleurs pas le seul. Oka Trishawa. Ok. Bref, donc, vous voyez, je ne suis pas le seul. Gloire à Dieu. La manière de nous exprimer en lingala, eh bien, permet aux autres de savoir d'où nous venons. Voyez-vous? Oui, Muntuyango. Abomi Ngungi. Ok, là, vous avez compris, vous voyez? Eh bien. Ça nous accuse tout ça. Eh bien, l'autre écoute Pierre, il dit non. Tu as un parler galiléen. Ouais. Tu parles comme cet homme, nous te reconnaissons. Voyez. Alors, là-dessus, au lieu même de se taire, il va commencer à faire des imprécations. Vous savez, une imprécation, c'est une malédiction qu'on profère à quelqu'un d'autre. C'est demander un malheur sur quelqu'un. C'est ça, faire des imprécations. Il a commencé à faire des imprécations. Vous allez être maudit, vous allez voir. Dieu, mon Dieu est ceci. Mon Dieu est cela. Que le malheur tombe sur vous. Mais le ciel n'a pas réagi. Voyez-vous? Il se retrouve en train de menacer les gens. En train d'appeler le mal sur ces gens-là. Mais ni le ciel, ni le Seigneur n'a répondu. Voyez-vous, car Dieu ne répond pas à ce genre. La prière, ce n'est pas de la magie. Hein. Et pourtant, avec Paul, face à ce gouverneur, avec Elimas, le magicien, qui l'empêchait de croire, Paul l'a regardé, il a appelé la malédiction sur lui. Cet homme est devenu aveugle, oui ou non? Était-ce la bénédiction? Je vous pose la question. Non, c'est quelque chose qui l'a privé de vue, de vision. À un moment, il a commencé à tourner, il ne voyait plus. Vous voyez? Pierre trahit, mes amis, Pierre se compromet. Comme Pierre, combien d'enfants de Dieu se sont retrouvés, mes amis, dans des situations comme celle-là, pour n'avoir pas persévéré dans la prière, lorsqu'ils sont passés par l'heure des ténèbres, eh bien, ils ont Ils se sont relâchés tout de suite. Ils sont allés chercher de la chaleur auprès du feu étranger. Mon frère, ma sœur, fais très attention. Ce feu qui te réchauffe, ce feu qui te donne un peu de lumière, ce feu, mon ami, qui pour un temps te donne l'impression que tu as trouvé la solution, est un feu qui t'apportera beaucoup, beaucoup de problèmes. L'homme qui t'entretient, qui te réchauffe financièrement, qui te réchauffe matériellement, cet homme-là, tu sais très bien que c'est un feu étranger. Mais tu cherches simplement à avoir un peu de chaleur pour être un peu à l'abri de certains besoins. Mais aujourd'hui, entends le message de Dieu. Persévère dans le froid pour ton Dieu. Persévère, accepte le rejet. Accepte la nuit. Ne cherche pas, ne cours pas après une petite lampe tempête qui certes va t'éclairer pour un temps, mais ça sera pour que le diable puisse mieux te voir. Ah, il est là. Vous savez, la lumière du Seigneur éblouit le diable. Nous passons, l'ennemi ne nous voit pas. Vous venez avec votre petite lampe tempête, catoritori. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous venez avec ça, ça vous éclaire seulement le visage. Quelque part, un démon s'est baladé cherchant qui détruire. Quand il regarde, c'est ma cliente ça. Voilà. C'est comme ça que des gens sont tombés. Même des serviteurs de Dieu. Avec des servantes du diable. Vous négligez, vous abandonnez le feu de Dieu. Eh bien, vous allez vous retrouver auprès du feu étranger. Combien d'entre nous se sont retrouvés ou sont encore dans des impasses à peine imaginables, dans des situations à peine croyables, parce qu'ils ont manqué de persévérance dans la prière lorsqu'ils sont passés par l'heure des ténèbres. Parce qu'ils ont cherché, ils ont privilégié la débrouillardise. Article 15, qu'on disait autrefois. Je ne sais pas si c'était dans la Constitution. Voyez-vous? Combien de fois on a vu un frère prier pour que le Seigneur lui donne une femme? À un moment, il perd de patience. Voyant que l'âme sœur ne vient pas, commence à recourir à des artifices charnels, comme des prophéties ou des visions, pour attirer dans son arène des sœurs, dans la plupart des cas, faibles d'esprit. Et on les manipule, on les fait croire qu'on est fait l'un pour l'autre. Combien de filles sont tombées, mes amis, dans ce panneau-là et se sont rendues compte plus tard de leur erreur, voyez-vous? À coup de prophétie, Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. À coup de vision, le Seigneur m'a dit que tu es l'homme de ma vie, voyez-vous? Ou quelquefois, vous voyez une sœur qui gagne un homme à Christ. Parce qu'elle est célibataire, elle pense que puisque c'est elle qui l'a gagné à Christ, c'est aussi celui qui la prendra en mariage. On commence à manipuler les pauvres. Lui, il est ignare par rapport à la parole de Dieu. Alors la sœur, comme elle chante à la chorale, comme elle a l'intercession et tout ça. Enfin, vient à coup de verset. Ah, voyez, Dieu a dit, très bien. Mais le frère veut connaître le Seigneur. Et petit à petit, vous voyez, le Seigneur m'a dit, il parle en prophétie. Bon, il a dit qu'il va te bénir dans ton travail. On commence toujours comme ça. Et puis l'autre croit. Après, il vient, non, il m'a dit que c'est toi l'homme de ma vie. Bon, mais l'autre, par esprit d'obéissance et par crainte de Dieu, se retrouve entre les griffes et ce pour sa mort. Et c'est comme ça que certains couples, au bout de 2-3 ans, se disloque. Oh, mais Seigneur, et pourtant je l'ai trouvé à l'église. Mais vous pensez que tous ceux qui viennent à l'église sont convertis? Tout ce qui brille n'est pas? Ma prière est que tous ceux qui viennent soient convertis. Mais il y en a qui sont en voie de conversion. Voyez? Il y en a peut-être qui viennent pour voler nos instruments. On en avait parlé. Donc, voyez-vous, mes amis, lorsqu'on ne persévère pas, Pierre se retrouvait en train de trahir son maître. Pierre se retrouvait autour de ce feu étranger. Et enfin, Pierre finit par renier son maître. Trois fois, mes amis, trois fois. Et la troisième fois, mes amis, le coq chante. Voyez-vous, il a commencé par manquer de persévérance dans la prière, et puis ensuite, il a réagi charnellement. Et ensuite, il a commencé à suivre le Seigneur de loin. Vous voyez? Et puis, qu'a-t-il fait? Il va le trahir en se mettant avec ceux qu'il avait arrêtés. Vous voyez comment le péché est très prolifique. Le péché se multiplie très vite, mes amis. Pierre, autour du feu, le coq chante. Voyez-vous? Et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié. » Ce coq a chanté pour rappeler, mes amis, à Pierre qu'il venait de pécher, qu'il n'était pas là où le Seigneur le voulait. Il fallait qu'il endure le froid pour son Dieu, n'est-ce pas? Il fallait qu'il endure tout par amour pour Jésus. Mais lui n'a pas persévéré. Ce feu, mes amis, ce feu-là, feu de trahison, le coq qui chante et le chant du coq a rappelé à Pierre qu'il venait de commettre l'irréparable. Alléluia. Qu'il venait, mes amis, de faire quelque chose de terrible. Qu'il venait de trahir celui qu'il avait tant aimé, qui avait fait de lui ce qu'il était devenu. Mes amis, si l'heure des ténèbres, nous ne la passons pas dans la prière et par la prière, eh bien, elle devient l'heure du coq. Et quand le coq chante, ce n'est pas pour nous amener à louer, adorer le Seigneur. Le coq a chanté, non pas pour dire à Pierre, lève-toi, lève la main, loue ton Dieu. Mais le coq a chanté pour rappeler à Pierre sa culpabilité. Et Pierre a pleuré, mes amis. Il est reparti avec une conscience surchargée. Mon frère, ma sœur, puisses-tu entendre le chant du coq ce matin? Là où tu es, ce n'est pas là où Dieu te veut. Ce feu qui te réchauffe est un feu destructeur. Accepte la privation pour ton Dieu. Accepte de tout perdre pour lui. Et quand le temps viendra, il te donnera plus que ce feu t'a donné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut éviter de tomber dans l'erreur de Pierre. Mais il faut faire comme Jacob rapidement. Jacob demeura aussi seul, alors qu'il était de retour dans son pays, sur instruction du Seigneur, sachant qu'il avait des problèmes avec son frère. Et ayant appris que son frère venait avec 400 hommes pour le tuer, se venger parce qu'il lui avait volé le droit d'aînesse, il lui avait arraché la bénédiction. Bref, il avait fait une blessure, il avait créé une blessure dans le cœur de son frère que même le temps n'a pas pu effacer, n'a pas pu faire cicatriser. Il va tout faire. Mais la Bible nous dit, cette nuit-là, comme pour Pierre, Jacob resta seul. Et cette nuit-là, Jacob lutta avec l'ange. Genèse 32, alléluia. Il lutta avec l'ange dans la prière, alléluia. Et il remporta une grande victoire. Pour lui, cette heure des ténèbres va finir par terminer par être une heure de Péniel. Une heure où il va voir Dieu face à face. Mes amis, l'heure des ténèbres est faite pour que nous voyions Dieu face à face. Après avoir persévéré, après avoir jeûné, après avoir prié, enfin, mes amis, il nous donne la victoire. Il vient marchant sur les eaux. Il vient nous donner la victoire. Eh bien, l'heure de Péniel, c'est l'heure de ténèbres, eh bien, que nous passons dans la prière, par la prière et avec Dieu. Et c'est ce que Jacob a fait. Résultat, dans cette nuit, son heure est devenue l'heure de Péniel. Il a vu Dieu face à face. dans sa situation, dans ses problèmes, dans ses difficultés. Il est reparti béni, puisque le lendemain, son frère est venu non pas pour l'égorger, mais il est venu pour se jeter dans ses bras, et les deux se sont réconciliés. Alléluia. À Peniel, Jacob a vécu une expérience extraordinaire. Cette nuit-là, son nom a été changé. Sa destinée a changé, mes amis. Voilà l'heure des ténèbres. Passée dans la prière, elle finit par devenir un Peniel pour nous. Et Peniel, en hébreu, c'est face de Dieu. C'est voir Dieu face. Mon frère, ma sœur, Pierre ou Jacob. Pour Pierre, le coq a chanté, lui rappelant son péché, sa culpabilité. L'heure du coq, c'est l'heure du jugement. C'est l'heure de l'abandon de Dieu. C'est l'heure du reniement et de la trahison. Il est reparti avec culpabilité, mais l'autre est reparti béni. Alors mon frère, ma sœur, tu passes par cette heure de ténèbres. Comment la passes-tu? Veux-tu qu'elle soit un péniel pour toi, une occasion de voir Dieu face à face? Ou alors, as-tu essayé de prendre des raccourcis, des chemins de tournée pour aller chercher des solutions ailleurs, et tu te retrouves aujourd'hui autour d'un feu étranger, certes qui t'apporte quelque chose, mais ce feu étranger t'apportera ultimement des problèmes. Alors il est grand temps que tu te repentes. Je vais vous demander d'incliner vos têtes dans la prière. Ton heure de ténèbres, comment la passes-tu? Tu as peut-être besoin aujourd'hui de te repentir, car tu te rends compte que tu n'as pas pu tenir ferme dans tes difficultés. Et tu as été tenté d'aller chercher le secours ailleurs. Et tu te rends compte que tu te retrouves autour d'un feu étranger. Et aujourd'hui, tu voudrais demander pardon. Seigneur, lève-toi et nous allons prier pour toi, alléluia, afin que le Seigneur t'aide. Merci pour ceux qui s'élèvent. Merci. Le Seigneur voit votre cœur. Oui, il veut vous pardonner. Oui, il veut que vous appreniez désormais à persévérer. Cette heure-là n'est pas faite pour votre destruction, mais pour que vous puissiez voir Dieu face à face, pour que cette heure soit un péniel pour vous. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui sont levées. Ces personnes réalisent, Seigneur, qu'elles ont essayé de contourner cette heure des ténèbres. Au lieu, Seigneur, de l'affronter dans la prière, et par la prière, ô Seigneur, ils ont préféré aller chercher du secours, Seigneur, auprès d'un feu étranger. Et aujourd'hui, ils te demandent pardon. Accorde-leur ce pardon et donne-leur désormais la force de pouvoir tenir dans cette heure des ténèbres. Qu'ils persévèrent, car au terme de cette persévérance, au terme de cette prière, c'est la victoire et le triomphe total. Seigneur, c'est la solution. Et c'est ta gloire. Bénis-le et donne-leur d'avancer désormais, non pas en se compromettant, non pas en essayant de trouver ou de chercher des chemins détournés, mais plutôt en s'appuyant sur toi. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Merci aussi de poser ta main, Seigneur, sur le service des offrandes et des dîmes. Nous bénissons ton nom pour cette grâce de pouvoir contribuer à l'avancement de ton règne et de ton œuvre ici à la borne. Bénis, Seigneur, tous ces cœurs qui te manifestent leur générosité, qui par fidélité soutiennent, Seigneur, cette œuvre. Donne-leur au centuple, dans le nom de Jésus. Amen.